Les As de la CoPro, la séquence politique.
Alors, Marie-Hélène, je me tourne vers vous. On va parler dans cette séquence politique de la nouvelle fiche, et là on fait un peu d'information auprès de nos auditeurs, la nouvelle fiche récapitulative du contrat de syndic. Alors je ne donne pas le nom entier parce que c'est une fiche d'information sur les prestations et les prix. Enfin, le nom est à rallonge.
À peu près aussi synthétique
que ce en fait, c'est le résumé du contrat de syndic. Cette fiche, c'est quoi? Est-ce qu'elle est obligatoire? Et finalement, est-ce que ce n'est pas un doublon par rapport au contrat de syndic?
Alors, elle est obligatoire depuis le 1er janvier 2022, hein. À peine de nullité, je crois, même du contrat, si je ne dis pas de bêtises. Pour ma part, ça va dans le sens du... Alors, je pense que le fait d'avoir standardisé, uniformisé les contrats de syndic, c'est plutôt une bonne chose pour les copropriétaires qu'on pourrait assimiler à des consommateurs et pour protéger les co-contractants et les informer au mieux. Maintenant, cette fiche synthétique, je trouve que ça ajoute de la lourdeur à la lourdeur. Elle devait s'appeler synthétique. Moi, je ne la trouve pas du tout synthétique. Ça se rapproche aussi des contrats d'assurance où maintenant, il y a une notice qui s'appelle IPID, si je dis pas de bêtises, où ça marche par idéogramme. Il y a 9 items avec des bonhommes qui sourient, qui sont rouges ou verts, qui sourient ou qui font la triste mine en fonction des points de vigilance à avoir. Donc voilà, c'est un peu du contrat dans le contrat.
C'est ça, parce que le contrat de syndic, il fait 11 ou 12 pages, voilà. Police 8 minimum, on ne peut pas toucher une virgule, sinon boum, déchets CRF. Voilà. Et l'idée au départ du contrat de syndic à la loi Allure, c'était de faciliter la compréhension et la comparaison entre les syndicats. Finalement, on s'aperçoit que c'est un échec puisqu'on s'est senti obligé de faire un résumé de ce contrat qui fait lui-même 4 pages. On attend, je suis un peu sarcastique, demain, le résumé du résumé. Exactement. Mathieu.
Oui, Marie-Hélène l'a très bien dit, hein, c'est vraiment de la surinformation au sens presque littéral du terme puisqu'on redit ce qui est déjà dans le contrat de syndic.
Et d'une façon différente.
Oui, d'une façon différente. Je pense que le problème, il vient à la base du contrat de syndic et de la manière dont il est rédigé. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment un contrat de syndic, on a un précis de droit de la copropriété où on rappelle tout un tas d'obligations légales qui sont déjà elles-mêmes dans la loi de 65. Et du coup, au milieu de ça, on a le volume des prestations, le nombre de visites, etc. et les tarifs du syndic qui sont perdus dans tout ça. À mon avis, on peut faire beaucoup plus simple. Il faudrait réécrire le contrat type avec des conditions générales qui, elles, sont finalement le socle commun à tout le monde, qui peuvent renvoyer à la loi de 65 sur la prise d'effet, la durée, le renouvellement, la résiliation anticipée, etc. On n'est pas obligé de tout marquer puisque de toute façon, c'est la loi. Des conditions générales et puis des conditions particulières dans lesquelles on va retrouver et pouvoir comparer très simplement d'un contrat à l'autre eh bien, la volumétrie des prestations, donc combien de conseils syndicaux je m'engage à faire, combien de visites, etc., pour quelle durée, et la tarification proposée. Donc avec des conditions générales, des conditions particulières, on peut synthétiser tout ça et on n'est pas obligé de se retrouver avec 18 pages de
documents contractuels. Donc on ferait quoi un contrat comme ça, 4 pages, allez, 4 pages maximum.
Sur les notices d'information en matière d'assurance et bancaire, là vous avez un vrai moyen de comparer, puisque c'est assez didactique. Hein, comme
c'est une fiche.
Hélène.
C'est une fiche
avec des codes couleurs, avec les points très précis de ce qui est par exemple inclus dans un contrat d'assurance, ce qui est exclu, et qui permet du coup d'avoir un vrai comparatif. Et donc, je pense que le bon modèle, c'est celui-ci, et pas effectivement ce côté
effectivement,
très, très, très rédigé.
Si on adopte définitivement le contrat type, mais reprendre le problème tout à zéro, remettre à plat, comme le propose Mathieu, on abandonne ce contrat type-là.
Ouais, ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas un contrat type. Hein. Moi, je suis personnellement assez favorable.
Non, mais si la fiche est rendue nécessaire, c'est parce que le contrat type.
C'est parce qu'il est mal rédigé, existe. Je pense que c'est assez nécessaire que tout le monde fasse une proposition sur les mêmes bases, très simplement comparable. Ça, à mon avis, il y a relativement peu de syndics qui remettent ça en question. Enfin, il y en a sûrement. Mais en revanche, voilà, c'est la manière dont il est rédigé. Et je pense que ça pourrait être un bon thème pour la prochaine concertation bisannuelle.
On en a parlé la dernière fois.
On peut pas en améliorer la rédaction. Et certainement, on peut faire quelque chose de moins compliqué et de plus facile à lire. Ça, c'est sûr.
Oui, Pierre-Edouard, je vous écoutais l'autre jour à la radio, vous parliez de ça. Là, on est vraiment dans le consumérisme total. Le syndic n'est plus un mandataire, il est un prestataire. Le copropriétaire n'est plus membre d'un syndicat, il est consommateur.
Un client.
Oui, mais c'est l'esprit de la loi Allure et de toutes les dispositions qui ont été prises depuis pour protéger effectivement un non-contractant, oui, une personne qui est en dehors du contrat mais qui en bénéficie directement. Et donc on va regarder cette personne-là pour la protéger. C'est vraiment l'esprit du texte. Mais c'est vrai que si on modifie un peu, j'ai pas pensé à cette présentation, mais qu'on connaît bien en droit des baux, notamment des baux commerciaux, hein, avec les conditions particulières et les conditions générales, ça pourrait améliorer la situation et on pourrait retrouver quelque chose d'un peu plus souple. Moi, je suis à titre personnel, mais pas directement, enfin, je suis copropriétaire, mais moins concerné par le contrat de syndic que les syndics, mais c'est vrai que l'idée peut-être de retrouver un peu de souplesse aussi dans le contrat, on pourrait peut-être avoir un cadre assez strict, tout en ayant une dose de liberté, exactement, de liberté contractuelle qui permet d'aménager en fonction des copropriétés. Je pensais l'autre jour aux copropriétés, aux résidences tourisme et aux résidences services, notamment pour les personnes âgées. Je ne comprends pas qu'on puisse gérer de la même manière, avec le même contrat, avec les mêmes obligations en tout point, un immeuble de ce type-là où il peut y avoir 200 lots et un immeuble de 3 lots sur un niveau, ou même une copropriété horizontale et une copropriété verticale en IGH. Ça n'a aucun sens. Enfin, intellectuellement, raisonnablement, ça n'a aucun sens d'avoir strictement les mêmes règles en tout et les mêmes prestations avec les mêmes présentations. Ça n'a pas de sens.
Surtout qu'on multiplie les régimes, différents régimes juridiques en copropriété, les immeubles tertiaires qui peuvent s'affranchir aujourd'hui de la loi de 65, les immeubles tertiaires, et adopter une autre convention beaucoup plus libre, type ASL. Bon, les ASL, c'est encore autre chose, mais les résidences services, les résidences étudiantes, les petites copropriétés qui ont aussi leur régime. Ces copropriétés, on pourrait imaginer une forme de co-gestion où le conseil syndical aurait une activité prépondérante, mais pour autant on a un contrat de syndic unique, sclérosé, et qui, je le répète, n'a pas bougé d'un iota depuis 7 ans, à part une petite mise à jour purement technique à la suite de l'apparition de nouveaux textes. Alexis.
Pas grand chose à rajouter, si ce n'est qu'il faut vraiment une concertation bisannuelle pour qu'on...
Alors normalement on est censé la faire cette année.
Visiblement, si on compte bien, oui, on arrive à juillet 2022. Il faut qu'on simplifions, parce que c'est vrai que Pierre-Edouard, tu le disais la dernière fois, c'est de la surinformation. Enfin, vous posez la question à un copropriétaire qui a reçu sa convocation d'Assemblée Générale. Je ne sais même pas d'ailleurs s'ils lisent, du coup.
Je ne suis pas certaine.
Cette fiche, mais en fait, voilà, on produit du papier, on gaspille du papier pour pas grand-chose aujourd'hui.
Et c'est vrai que l'excès d'information perd le lecteur et finalement perd la valeur du contrat. Je vous remercie vraiment à tous. Cette émission touche à sa fin. J'avais un dernier thème pour la séquence politique, mais je la garde pour la prochaine émission. Donc, suspense, puisque là, le temps est écoulé. Je vous remercie. Donc, Mathieu Mialaret, je rappelle, vous êtes directeur métier, copropriété, gestion locative, administrateur de biens, donc chez Foncia.
Exactement, Foncia. On dit plus Foncia Group, c'est Foncia maintenant.
Foncia. Merci encore pour votre venue. Marie-Hélène Lequin, responsable d'agence chez Auralia, syndic, vous êtes vous-même à Paris. Alexis de Coster, vous êtes directeur métier, pareil comme Mathieu, mais chez Crédit Agricole Services Immobiliers. Merci beaucoup.
Merci, Gilles.
Pour votre participation. Et enfin, Pierre-Edouard Lagrelet, avocat au barreau de Paris, avocat au barreau de Bordeaux. Je ne me suis pas trompé cette fois, mais Lyon, je suis sûr que la prochaine fois, je pourrai le prononcer. Et vous êtes, je rappelle, parce que c'est un excellent ouvrage, auteur de l'ouvrage Syndic de copropriété, paru chez Edilex. Je vous remercie beaucoup. Cette émission est maintenant terminée. Je vous souhaite de passer un bel été. On se revoit à la rentrée. Et bien sûr, faites de la copro.
Les As de la CoPro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.